autour de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lechowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation, pour nous interroger sur nos colères aujourd'hui, nos colères noires, rouges ou plutôt jaunes en ce moment, dans les rues comme dans les cœurs. Pourquoi tant de colère? Comment cette émotion, sans doute la plus intense, autrefois réservée aux dieux, est devenue omniprésente? Serait-elle l'émotion de notre époque, signe de puissance ou d'impuissance? Comment la colère nous envahit et pourquoi intensifie-t-elle tout sur son passage? Faut-il s'en inquiéter? À quoi nous sert-elle? Qu'est-ce que nos colères disent de nous et de notre époque? Autant de questions soulevées très à propos par notre invité, le philosophe Michel Herman, dans son dernier ouvrage, qui nous entraîne jusqu'au bout de la colère, autour de la question « Pourquoi tant de colère ?» Bienvenue. Bonjour Michel Herman.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous pour partager non pas votre colère, mais votre réflexion sur cette émotion contemporaine. C'est le sous-titre de votre essai qui vient de paraître aux éditions Plomb, Au bout de la colère, qui remporte déjà un franc succès et dont nous avons d'ailleurs, amis auditeurs, un exemplaire et un seul à vous faire gagner, avis aux amateurs. Michel Herman, vous êtes écrivain et philosophe des émotions et des passions. Vous n'avez pas attendu la colère des Gilets jaunes en France pour réfléchir à ce qui est sans doute la plus intense de nos émotions, mais cette colère, vous l'avez tout de même sentie monter, envahir tous les champs et tous les rapports humains. Est-ce qu'elle serait l'émotion de notre époque? Pourquoi tant de colère aujourd'hui, Michel Herman?
Oui, alors je me pose la question de savoir si c'est l'émotion de notre époque. Mais malheureusement, il y a quelques signes qui nous invitent à le penser, ou du moins à essayer de le penser. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé quand je me suis intéressé à ce sujet il y a quelques mois. Je suis tombé sur un livre publié par le même éditeur, d'ailleurs, Édition Plomb, paru en 2000. Et ce livre qui était dû à un écrivain, un romancier, qui regardait les choses et le monde un peu comme je les regarde. Moi-même, je suis aussi romancier, je le comprends parfaitement. Et il concluait que nous étions une époque sans colère, c'est-à-dire sans réaction, une époque un peu amorphe. Ça, c'était en 2000. Bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Je crois qu'il y a eu deux événements mondiaux, enfin, qui ont marqué en tous les cas le monde et puis le moment contemporain. C'est le 11 septembre 2001, et puis c'est à partir des années 2008-2009 une crise économique qui est due à divers facteurs qui couvaient bien sûr, enfin qui a éclaté à ce moment-là et qui a quand même produit beaucoup disons de ratés et de déshérités de la mondialisation. Donc je crois qu'il y a deux phénomènes qui sont des phénomènes politiques, non pas perçus de façon rationnelle, mais qui ont été perçus. Enfin, bien sûr, on a compris pourquoi il y avait du terrorisme. Mais enfin, ça renvoie aussi à
Deux phénomènes qui suscitent notre colère.
Qui suscitent au fond des réactions psychopolitiques. Voilà. Et je crois que c'est comme ça que j'expliquerai. Hein. Je suis sûr que c'est pas la seule explication, mais c'est comme ça que j'expliquerai, si vous voulez, le fait que le mot colère a peu à peu apparu, à partir des années 2005, même du référendum sur la Constitution européenne en France, en se substituant à des mots comme revendication, grève, etc.
Oui, on n'est plus en révolte, on est en colère.
C'est-à-dire qu'on est en colère. Ça m'a
on a le droit d'être en colère, enfin.
Alors, on a le droit d'être en colère, mais une chose qui m'a beaucoup frappé, pour être très terre à terre, vous voyez, il y a, je crois, un an et demi à peu près, je crois que les pharmaciens sont mis en grève une journée. Bon. La presse ne parlait pas de grève des pharmacies, mais de colère des pharmaciens.
Un des leaders des Gilets jaunes en ce moment, son mouvement s'appelle La France en colère.
La France en colère. La colère est partout en France depuis, à mon avis, 4-5 ans à peu près. Mais c'est monté peu à peu, et le mot colère, dans les discours des médias, et puis les médias sont au fond aussi des éponges, enfin hein, des miroirs, parfois déformés, mais enfin quand même des miroirs de ce qui se passe dans la société, le mot colère est apparu pour désigner au fond des confrontations, des disputes, des revendications diverses.
Vous citez d'ailleurs en exergue de cet ouvrage un autre philosophe contemporain, Peter Sloterdijk. La colère, cet affect le plus inquiétant et le plus humain de tous. Alors avant de tenter de définir, hein, cet affect, cette émotion, on le verra si complexe. Je vous propose, Michel Armand, de commencer par cette actualité de la colère, avec un florilège de toutes nos colères, individuelles et collectives, des rages enfantines, aux colères plus politiques, des colères noires, rouges ou en gilet jaune. C'est le mix forcément colérique d'Hugo Violas.
Quand t'es en face de personnes de ton gouvernement, que t'es censé avoir élu, mais bon, là c'est encore discutable, et qui te répondent qu'ils peuvent rien faire, mais qui touchent 14 000 balles par mois, je vous dis d'aller vous faire foutre.
Et si la colère nous saisit, nous la mettrons au service de la calme détermination à défendre la liberté au jour le jour.
Putain de merde ! Quand est-ce que le soleil va revenir là ? Il y en a marre ! Tous les jours il pleut maintenant !
Tiens, vous avez l'air bien énervé, Robert.
Ça vous étonne ? On n'en veut plus de vos gouvernements. Vous voyez pas que vous nous sucez la moelle depuis des années? C'est pas de maintenant que ça monte. C'est depuis 30 ans que ça monte. Maintenant, vous voyez, c'est fini. Ça suffit.
Alors par contre, si vous sentez qu'il s'énerve un peu, hein, vous lui sortez un morceau de viande crue.
Au nom de quoi vous m'empêchez d'entrer dans mon local? Au nom de quoi? Qui vous a donné cet ordre? Je suis un parlementaire.
Touchez pas, monsieur Mélenchon.
Vous ne me touchez pas. La République, c'est moi. C'est moi qui suis parlementaire. Touchez-vous de là, ouvrez-moi cette porte.
Moi aussi, j'ai la voix qui porte. Moi aussi, je peux me gueuler. Et beaucoup plus fort que toi.
Oh, merde!
Calme-toi, merde. Allez. Il y a de la tarte au myrtille et de la salade. Alors, qu'est-ce qui veut boire un coup?
On se calme, enfin on essaye, parce que c'est pas simple, Michel Armand, de calmer sa colère quand elle nous envahit. Vous voulez, j'imagine, réagir à ce mix. Moi j'ai aussi envie de vous demander, qu'est-ce que c'est que la colère? Les colères.
Alors oui, ce mix est très intéressant. C'est véritablement un condensé de différentes expressions de la colère. Bon, une ou deux choses, parce que une ou deux choses simplement. Il y a des films, je ne les ai pas tous reconnus d'ailleurs, mais enfin, bon, la colère est... Et comment dire, est un ingrédient de la comédie. Ça, c'est évident. Depuis Molière, mais même avant. Dans les farces du Moyen-Âge. Enfin bon, le personnage en colère est d'ailleurs souvent ridiculisé. Oui. Il se prend très au sérieux, il est ridiculisé. Et ça me permet de passer, bon, à un autre versant. Pour moi, c'est un peu malheureux, mais c'est comme ça. Le monde est un théâtre, comme disait Shakespeare. Et en tous les cas, aujourd'hui, le monde politique est un théâtre. C'est la réaction de Jean-Luc Mélenchon, qui est véritablement une réaction colérique, mais une réaction sur jouer. Hein.
Une mise en scène de la colère.
Ah, c'est une mise en scène totale de la colère. Hein. Bon, c'est au moment où il a été perquisitionné, mais il arrive là au siège de son parti et il se met absolument en colère alors qu'il a été perquisitionné trois heures auparavant chez lui, donc il était au courant de ce qui se passait, il savait ce qui allait se passer, il arrive, il fait comme s'il découvrait tout. Bon, et donc il met en scène la colère. Cette mise en scène de la colère, c'est une mise en scène de l'indignation. On en parlera peut-être tout à l'heure, il y a plusieurs types de colère, c'est une mise en scène de l'indignation. Et l'indignation, au lieu d'être, comment dire, une douleur immédiate, hein, parce que la colère, au fond, c'est une manière de dire « j'ai mal », ou « je suis mal », plutôt. Voilà. Et c'est un sentiment que l'on affecte, que l'on ressent, comme ça, brutalement, et qui domine tous les autres. Hein. Si bien que dire à quelqu'un « calmez-vous », ça sert à rien, au contraire, ça ne peut que le renforcer dans sa colère.
C'est une émotion ou c'est des émotions, la colère? On a l'impression que justement, ça s'intensifie, puis ça dépasse tout.
Alors justement, je vais répondre, je vais dire sur Mélenchon, c'est que lui, au contraire, c'est pas du tout il dit pas du tout « j'ai mal, je suis mal ». Hein, il organise ça comme un discours, comme une mise en scène. La colère se plie à une mise en scène, que ce soit une comédie théâtrale ou que ce soit une comédie politique.
Vous citez d'ailleurs un autre philosophe, parce que la colère c'est terrible, hein, quand on tire ce fil-là, ça ne nous met pas en colère, mais alors on en tire énormément. Vous citez le phrase d'un autre philosophe, la colère instrument des puissants, arme des pauvres ou des faibles, c'est
oui,
ça
hein
arme Là c'était l'instrument des puissants et ça peut aussi être l'arme des faibles.
Absolument, mais on le voit aujourd'hui avec les gilets jaunes. Mais pour revenir à la question fondamentale, qu'est-ce que c'est que la colère? La colère c'est vraiment quelque chose qui nous saisit, hein, parce que pour un oui, pour un non, j'allais dire, mais pas forcément, on peut avoir de très très bonnes raisons, on estime qu'on a été victime de quelque chose d'injuste. Hein, la colère est la seule émotion qui peut se prévaloir de la justice et de l'injustice. Hein, c'est pas le cas de la tristesse, de la joie. Donc c'est très particulier comme émotion.
C'est une réaction physique, émotionnelle de tout notre corps à une injustice.
Oui, c'est ça. Bon, pour le dire en une phrase, c'est ça. Hein. Et c'est composé. C'était le sens de votre question là. C'est composé de, comment dire, c'est une sorte d'incubateur. Hein, c'est composé d'autres émotions. Voilà, c'est pour ça qu'il y a différentes expressions de la colère, différentes manières de la vivre, différentes manières de l'instrumentaliser. Et au fond, elle répond à des situations extrêmement différentes. Alors, quelle est l'émotion, enfin, quelles sont les émotions qui peuvent la constituer? La première, la plus évidente, c'est la peur. La peur est un précurseur de colère. Bon. Et je pense que sur un plan géopolitique, que j'esquissais très rapidement, hein, j'en ai conscient tout à l'heure, disant que les colères dans le monde occidental sont peut-être parties du 11 septembre. C'est parce que ça a suscité angoisse et peur dans des zones géographiques, géopolitiques, qui se pensaient préservées, un peu, disons, de la barbarie du djihadisme. Bon. D'un seul coup, on s'est aperçu que ces zones ne l'étaient pas. Et il y a eu, effectivement, au cours de la décennie 2000-2010, et puis maintenant, 2019, nombre d'attentats. On vit avec, et on se pose la question, est-ce que c'est une guerre? Est-ce que c'est pas une guerre? Certains disent que c'est une guerre, d'autres ne le veulent pas. Et il y a toute une idéologie qui se construit pour et contre là-dessus. Bon. Mais à l'origine, c'est la peur. Donc, la peur est un précurseur de colère. Mais vous pouvez avoir bien d'autres choses qui vont constituer la colère. Par exemple, le ressentiment. À mon avis, pour parler des Gilets jaunes, après l'élection du président Emmanuel Macron, pendant un an et demi à peu près, tout s'est passé en France comme s'il n'y avait pas de véritable opposition rationnelle. Il y avait une position d'extrême droite, une opposition d'extrême droite, d'extrême gauche, mais disons que ce sont des propositions politiques plutôt irrationnelles. Hein, plutôt irrationnel. Bon. Et il n'y avait aucune. C'était très étonnant. Et moi, j'ai écrit le livre à peu près, enfin un petit peu, de cette période, hein, oui, il y a un an. Et je me disais, mais on est dans une forme d'indifférence politique. Or, l'indifférence politique, l'indifférence ou l'attente, etc. L'indifférence, elle n'est pas forcément bienveillante. L'indifférence, c'est une manière de se préserver. Mais de se préserver de quoi? Est-on dans un moment post-politique, comme certains le disaient? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'alternative à une politique libérale.
Et dans ce cas-là, l'indifférence, ça serait quoi? Ça serait une sorte de contraire, parce que la colère n'est absolument pas indifférente. Elle fait quoi? Elle fait couver la colère? Il y a la peur?
Alors, l'indifférence est sans doute provoquée, là, en l'occurrence, par le fait que il n'y avait pas d'autre solution que l'élection du président Macron. Et puis, il a mené ses réformes. Ces réformes ont plu et déplu, mais il n'y avait pas de véritable position contraire. Il n'y avait pas de véritable réplique politique à ces réformes, de discussion politique à ces réformes. Encore une fois, elles étaient excessives, hein, de l'extrême droite ou de l'extrême gauche. Et donc, cette espèce de ce que j'appelle d'apparente indifférence, hein, couvait en fait, sans doute, des ressentiments, et ces ressentiments ont éclaté. Alors, je ne veux pas me faire prophète, moi, je n'ai pas du tout annoncé le mouvement des Gilets jaunes, mais je pensais qu'il y aurait un mouvement un petit peu semblable, mais plus gouverné par la France insoumise, par exemple, ou par le Front National, ce qui n'a pas été le cas.
Et c'est des manifestations impressionnantes, parfois, parce que la colère, on va le voir, hein, c'est une émotion, on ne peut pas dire qu'elle soit que négative, ni que positive, mais elle décuple complètement nos forces. Ça s'exprime par des jurons, on parle de colère rouge, colère noire, vous citez même le capitaine Haddock dans votre livre avec ses jurons. Enfin, elle physiologiquement, la colère nous rend puissants. Cette colère qui, justement, pendant très longtemps, était réservée aux dieux.
Oui.
Aux dieux grecs ou aux dieux de la Bible, mais aux puissants.
Puissant, absolument, absolument. C'était une émotion tellement ambivalente, tellement dangereuse, qu'elle était réservée aux puissants dans des modèles anthropologiques et des sociétés qui ne sont pas les nôtres aujourd'hui, bien évidemment. Hein. Aujourd'hui, la colère s'est bien évidemment démocratisée et le fait que tout le monde puisse se mettre en colère, c'est une sorte presque de revendication démocratique. Mais la colère, elle provient aussi du ressentiment, donc elle peut provenir de l'envie. Elle provient d'une sorte d'incubateur d'émotions qui ne sont pas toutes des émotions, disons, sont joyeuses, sont, certaines d'entre elles sont très tristes. Mais alors, pour revenir à la mécanique de la mécanisme de la colère, effectivement, on est pris soudainement, hein, c'est une émotion, on est pris soudainement parce qu'il y a une injustice qui nous est faite. Voilà. Ou il y a quelque chose d'inadmissible qui se passe, que nous ne pouvons pas admettre. Et donc la colère nous emporte.
Parfois, ça peut faire du bien, on va dire, une bonne colère. Je vous propose d'écouter celle de Barbara sur RFI. Oui.
Tu bouges, je ne bougerai pas, j'attends. Et rouge, une flamme s'en va dansant. Et soudain, c'est la terre qui s'ouvre, vocifère ta colère, qui claque, éclate. Tu bouges, moi je ne bouge pas, j'attends. Tu tonnes, résonnes, le bruit de tes cris maintenant. Tu casses, agaces, le temps a suspendu son temps. Tu armes tes armes, tu quêtes mes larmes. Et je reste de glace, méfiante, prudente. Tes armes, tes drames ne m'alarmeront pas, j'attends. Et je guette, je vais saisir entre mes dents. Je guette l'instant où tu vas pantelant. Reprendre ton souffle qui s'essouffle, s'essouffle. Ça ne tardera pas, attends. Alors, démente mais lente, je me déplace lentement. Mes hanches balancent, j'ai un couteau entre mes dents. Ma bouche si douce grâce à la feu et les serpents. La folie, la furie, je hurle vengeance. Je n'épargnerai rien à temps.
Face à la colère, chantée par Barbara sur RFI, c'est une colère, il y a plusieurs colères, hein, des froides, des chaudes.
Oui, alors là, ce qui est intéressant dans la chanson de Barbara, c'est qu'elle chante deux colères. Elle chante la colère de l'amant qu'elle veut repousser. Hein, bon. Et on peut imaginer qu'effectivement, que cette colère est la conséquence de disputes, de désaccords. Et d'ailleurs, c'est intéressant, elle dit qu'elle voit la peur se dessiner sur le visage, et la peur annonce la colère. Et puis, elle chante sa propre colère. Va-t'en. Hein. Elle-même finit par se mettre en colère. Mais c'est une colère en quelque sorte réfléchie. Hein. Je dirais que c'est presque une forme de flegme.
Alors vous savez, une forme de calme, en fait, de se mettre en colère, peut-être, on n'est pas à un paradoxe près, on va le voir.
Oui.
Le fait de se mettre en colère peut révéler quoi on peut prendre son temps, on peut la mettre en scène. C'est ça.
C'est ce qu'elle fait en disant qu'elle ne sera plus le réceptacle de la colère de l'amant. Donc elle se révolte, elle-même se révolte contre les colères de l'amant. Donc il y a deux colères là. Hein. On peut penser que l'amant était peut-être, quelqu'un de très irritable ou quelqu'un de violent, enfin de violent dans les sentiments.
Bon. Et elle... De toute façon, il y a toujours plusieurs colères. Vous le dites vous-même, il y a plusieurs degrés. Il y a de l'irritation, il y a de l'indignation, et puis il y a de la fureur. Et alors là, ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer.
Et là, c'est une colère amoureuse. Hein. Donc elle est un peu un mélange de tout ça. Mais elle refuse la fureur, c'est-à-dire elle refuse vraiment la violence, quoi, hein, ou même la violence des sentiments. Elle les exprime pas, elle les exprime sans doute indirectement, par le fait qu'elle va partir, qu'elle va imposer la séparation. Mais elle passe par une sorte de flegme. Alors si vous voulez, c'est l'occasion de voir la colère aussi d'un autre point de vue. Hein, vous savez, le flegme anglais, le flegme du gentleman anglais. Alors tout d'abord, ça c'est pas une tradition, c'est une tradition récente. Hein,
mais quel rapport avec la colère, le flegme?
Justement, le flegme, c'est une manière de dire je ne suis pas atteint par mes émotions. Le gentleman, c'est celui qui never explain, never complain. Non, never complain, il n'est jamais atteint, mais never explain, il ne dit jamais rien, il n'explique rien, il coupe la relation avec l'autre. Et je ne suis pas sûr que cette forme de comportement flegmatique soit véritablement le contrepoint de la colère. C'est une manière d'exprimer différemment sa colère, de façon peut-être encore plus vive,
de refuser au fond tout et de refuser au fond tout rapport et
de
tout
refuser
contact
tout
avec l'autre.
Voilà, et c'est encore plus vif parce que c'est un refus et parce que elle ne semble pas emprunter les codes habituels de la colère. Dans la chanson de Barbara, ça se termine par va-t'en, hein, une expression tout de même là fait colérique. Donc la chanson est très 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 intéressante de ce point de vue-là. Et pour répondre à votre question, je pense qu'il y a effectivement trois types d'expression de la colère qui en font sans doute trois natures presque différentes. Ensuite, elles ne sont pas tout à fait exclusives l'une des autres. La première, c'est l'irritation. On est en colère tous les jours. Vous savez, la colère, c'est notre condition aussi. Hein.
Notre condition humaine. Hein, c'est très archaïque et très humain. Comme
c'est très humain et des rapports avec les autres. La colère rappelle que, comme toutes les émotions...
Qu'on ne va pas se laisser marcher sur les pieds non plus.
Oui, et puis qu'on n'existe pas seul. Si vous voulez qu'on n'existe pas seul. Je suis en colère, pourquoi ? Enfin, je m'irrite, pourquoi ? Ben parce que, je sais pas, dans une file de cinéma, quelqu'un va passer devant moi. Mmh. Bon, je vais lui dire, écoutez, là, vraiment, pour qui vous vous prenez ? Enfin, en général, c'est pas agressif. Enfin, ça, on n'arrive pas à une agression. Enfin, tout dépend du tempérament des gens. Ensuite, bien sûr, hein, les colères se vivent avec les personnalités.
Et c'est normal de se mettre en colère.
C'est normal aussi de se mettre en colère. Pourquoi ? Parce que quelqu'un passe devant vous, devant une file de cinéma, vous empêche, je sais pas, finalement, vous retrouvez le dernier et puis vous pouvez pas entrer. Vous vous laissez faire ? C'est absurde. C'est une colère saine. Bon, tout dépend après de la manière dont vous allez l'exprimer. Puis, il y a une deuxième colère qui est la colère politique et l'indignation. Alors, j'en disais un petit mot tout à l'heure, l'exemple de Mélenchon est intéressant. C'est une colère travaillée, c'est pas un cri, si vous voulez, hein, qui, d'un seul coup, dit votre refus d'être maltraité ou d'être mal considéré. Bon, non. C'est un discours construit. L'indignation, c'est un discours construit. Hein. Le petit livre de Stéphane Hessel était formidable, mais en même temps, si vous voulez, je ne suis pas sûr que c'eût été le bon titre. Hein. Parce que l'indignation, c'est précurseur de quelque chose. Mais de quoi, si vous voulez ?
C'est pas une fin. C'est pas une fin.
C'est pas une fin. La colère, quand elle est liée, quand elle a des causes, vous pouvez voir quelle finalité elle poursuit. Mais quand elle n'a pas de cause, comme dans le petit livre, hein, ou alors il y avait des causes indirectes, bon, après c'est un problème politique. Voilà. Mais donc l'indignation, c'est un discours qui se prévaut de la morale. Voilà. Prévaut du bien.
Moi, j'ai raison et j'ai raison de me mettre en colère.
Voilà. J'ai raison de me mettre en colère parce que je suis mal payé, parce que, je n'ai pas accès à telle et telle chose, ou parce que... Alors, on est dans une société très, très indignée. Où les gens sont indignés, où les gens se disent victimes. On se dit victime de l'école parce que on va dire qu'on était dans un lycée qui n'était pas dans un bon quartier, qu'on n'a pas pu faire une classe préparatoire, etc.
On est indigné qu'on ne nous ait pas pris à notre juste mesure. On est indigné parce qu'on se sent quand même important.
On se sent important. Et donc ça, c'est pour ça que c'est une émotion de notre époque. C'est une émotion finalement individualiste et extrêmement narcissique. Hein, de gens qui, alors non seulement dans le domaine politique, mais également dans la vie de tous les jours, de gens qui considèrent que, c'est ça, ils ne sont pas reçus, ils ne sont pas considérés à leur juste valeur, hein, que, comme disait la publicité, une publicité formidable pour notre époque, parce que je le vaux bien. Hey, bon, hein, c'est formidable d'ailleurs, ce slogan publicitaire dit tout de notre époque narcissique. Et donc, les colères qui auparavant étaient les colères des dieux, la colère d'Achille qui est à l'origine de la littérature occidentale, bon, c'était une colère réservée aux héros, Achille, réservée aux dieux. Aujourd'hui, la colère, elle est partagée par tout le monde et elle participe de l'individualisme forcené dans lequel nous sommes.
Voilà
une troisième colère qui est la fureur. Alors la fureur, bon, on peut en parler un peu. La fureur, c'est une colère qui emporte tout, et c'est une colère
qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne contrôle pas.
Alors qu'on ne maîtrise. Oh, on peut. Là aussi, il y a de l'ambivalence. Hein. Elle peut à la fois être irraisonnée et en même temps bien travaillée. Elle est alimentée par la haine. Bon. Et là, c'est ce composé affectif qu'est la haine qui va en faire une colère invraisemblable. Et cette colère-là, elle est dirigée en général contre quelqu'un, alors que l'irritation est plus dirigée contre un phénomène. Si vous voulez, hein, un événement.
Parce que nous sommes des êtres émotionnels, hein, notre cerveau émotionnel. Michel Hermant a été mis en lumière par les neurosciences, notamment par le chercheur Antonio Damasio, que vous citez d'ailleurs, qui a mis en avant le cerveau des émotions. Au commencement était l'émotion. Je propose d'écouter un extrait de l'entretien que Antonio Damasio nous avait accordé sur l'importance de ce cerveau des émotions, et vous réagirez ensuite.
Mon organisme, par son cerveau, va réagir à votre présence. L'organisme passe tout son temps, et le cerveau passe tout son temps, à réagir à des stimulus. Alors, quand je fais cette réaction, et cette réaction a des composantes émotionnelles, il y a là aussi un sentiment qui vient de la lecture de cette émotion. Je peux vous dire que être vivant et être conscient et être toujours dans un état émotionnel. Il n'y a pas, si on est normal, il n'y a pas des états non émotionnels, il n'y a pas des états non sentimentaux.
Tout est toujours émotionnel. Michel Armand, vous qui êtes philosophe des émotions, la colère, on l'a vu, elle fait partie de nous. On est des humains.
Moi, je suis entièrement d'accord avec Antonio Damasio. Hein, et je pense d'ailleurs que nous progresserons dans la connaissance de la nature humaine, de la condition, enfin les deux étant liés, bien évidemment, hein, grâce aux travaux des neurosciences, aux travaux sur la chimie du cerveau. Et donc, moi, j'ai lu les travaux de Damasio lorsque j'écrivais mon livre, et je me suis retrouvé tout à fait avec lui. Si vous voulez, en un mot, d'un point de vue philosophique, je dirais que s'émouvoir, c'est penser. Et effectivement, nous sommes, pour être vivants, nous sommes une boule d'émotions, simplement. La civilisation des mœurs, les nécessités de la vie en commun, etc., font que
ces émotions... Il faut canaliser un peu.
Pardon ?
Il faut les canaliser,
ces émotions. Il faut les canaliser. Sont dominées, elles sont canalisées.
Et puis elles sont souvent mal vues, on l'a dit, la colère, aujourd'hui, elle ressurgit un peu partout, elle a quand même longtemps été mal vue. Et pour continuer de définir cette colère autour de votre livre, Au bout de la colère, dont nous avons, amis auditeurs, je le rappelle, un exemplaire à vous faire gagner, si vous nous le demandez par mail ou sur notre page Facebook, pour mieux comprendre cette colère, on peut la regarder de plein de côtés, on peut aussi chercher ses opposés. Et moi, une des plus grandes découvertes que j'ai faites dans ce livre, Michel Armand, c'est que le contraire de la colère, on a parlé tout à l'heure d'indifférence, c'est pas le calme, le contraire de la colère, c'est la honte.
Et oui, parce que, comme on le disait tout à l'heure, la colère vient de quelque chose que nous n'admettons pas, une forme de mépris, de violence, etc. Bon. La colère est une réaction contre ça. La honte est une manière, finalement, de se laisser submerger, de se laisser emporter. Hein. C'est-à-dire de donner raison à celui qui, à un moment, me fait honte.
C'est-à-dire que la colère est une résistance, une forme de résistance.
La colère est une résistance, c'est une manière de rétablir son moi, hein, que l'on estime à juste ou à mauvais titre.
Blessé, abîmé.
Blessé, etc. Et la honte est une manière de se laisser aller à la désapprobation de soi. Et de dire, oui, c'est ma très grande faute. Alors évidemment, on peut avoir honte, j'ai faim, je mange un sandwich dans la rue, je croise une jolie femme de ma connaissance,
c'est de la mayonnaise sur la bouche et j'ai honte.
Voilà, bon, bien sûr, on a honte, pourquoi ? Parce que là, on a associé deux choses, hein, le besoin qui est celui de la nutritive, de la nourriture, et puis au fond le rapport éventuellement de séduction ou de, sans que ce soit de la séduction, hein, on va parler des rapports quand même dans la société française où, disons-le tout de même, hein, on a tout de même une tradition de coexistence des sexes, hein, dans toute la réalité de leur identité sexuée. Bon. Donc voilà, là il y a une sorte de contraste entre le besoin, on va le dire, et le désir, pour parler très vite. Bon. Donc là, je suis, j'ai honte de moi. Alors, non pas que je devrais m'affirmer en disant « mais j'ai faim, il n'y a pas de raison que je ne mange pas ». Donc je ne vais pas me mettre en colère, forcément, contre
ou
la situation.
Ou alors en colère contre moi.
Je vais mettre en colère contre moi dans cette situation-là. Voyez, donc toute forme de honte n'est pas forcément le contraire de la colère. Il y a des situations, situations, comme on dit en philosophie, contingentes, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas s'attendre à ce que ça se passe comme ça. Et ça aurait très bien pu se passer autrement, hein, qui vont par exemple susciter un malaise. Hein, là, ce que je décris là, c'est une sorte de honte-malaise. Non, autre chose, ça serait, par exemple, parmi les gilets jaunes, on peut peut-être en reparler, il y a toutes sortes, finalement, de revendications, toutes sortes de situations sociales. Bon, eh bien, moi, je suis allé un petit peu sur les ronds-points, je comprendre cette colère d'un seul coup sur laquelle j'avais écrit, qui d'un seul coup éclatait en acte, et en acte, disons, politique au sens général du terme. Et il y a des gens, au fond, qui, en faisant cela, je voyais bien, sortaient d'un sentiment de honte.
Ben, la colère, c'est pour sortir de la honte. On sort de la honte. Quand on arrive à se mettre en colère, on sort de la honte.
On sort de la honte parce que certains avaient honte, je comprends parfaitement, d'avoir à aller au Resto du Cœur, d'avoir à demander à leurs parents ou à leurs enfants, parce que les deux situations se présentent, de les aider à boucler leur fin de mois, par exemple.
C'est une manière de retrouver sa dignité. C'est le côté positif de la colère.
C'est le côté positif de la
comme
colère.
Comme vous disiez, aussi narcissique, mais positif.
Ah ben c'est le côté positif. Quand on voit que le contraire, c'est la honte, ça peut être aussi d'autres situations, comme d'autres sentiments, enfin affects comme la tristesse. Mais avec la honte, on voit vraiment que la colère, c'est une énergie. C'est une énergie. Alors ensuite, il y a la question de ses modalités, de ses finalités.
C'est ça. Et comment on la canalise et qu'est-ce qu'on en fait de cette énergie de la colère? Je propose autour de la question pourquoi tant de colère ici comme ailleurs, d'écouter l'African Colère de Yao Bobby sur RFI.
Vous cassez ci. Alerte tout. Basse connaître. Alerte fils. Et alerte petit-fils. L'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté.
Lorsqu'ils ont entendu la musique militaire à la radio, ils ont exulté de joie, se disant, ça y est, on a gagné. Non, ils n'ont pas gagné, ils ont perdu.
Yo, ça vient de la terre mère, c'est l'africaine colère, c'est un morceau vénère, un morceau de nerf qui a traversé les mers. Ça sent le vin de balle, ça gueule le tam-tam, c'est le glas de nos âmes, c'est l'amour et la haine de continents qui saignent. Ça joue au foot à la Wallée, et pas l'Occident se fait toujours avaler. Ça, c'est aussi pur qu'un rire d'enfant, c'est innocent, c'est sourire, mais ça montre et serre ses dents. Ça manque un peu de tout, parfois ça devient fou, ça priera de rattraper, et de construire le tout puissant pour voir ses rêves devenir grands. Ça, Oyebe Malcolm X, Oyebe Olympio, Oyebe Sankara. C'est l'affaire de mes frères, de nos terres, de la diaspora. C'est le froid venu de Saint-Gat, de la Courneuve, de la France autour de moi.
Je suis un homme qui appartient à un peuple. Un peuple qui a une histoire, à un groupe ethnique qui a beaucoup souffert.
Yao Bobby sur RFI, African Colère, ça vous inspire Michel Hermann?
Absolument oui, parce que je me rends compte, je le savais, mais je n'y avais pas pensé d'ailleurs en écrivant le livre, j'aurais pu le dire. Le rap est une forme musicale, une forme d'expression musicale tout à fait propice à l'expression de la colère. D'ailleurs, beaucoup de textes de rap expriment la colère, ne serait-ce que le rythme qu'il impose, hein, qui impose au fond de valoriser le mot, parfois, non pas au détriment, mais plutôt que l'énoncé en entier. C'est-à-dire, l'énoncé est composé en rap souvent d'une association comme ça de mots.
Donc il n'y a pas que le rock. Il n'y a pas que le rock.
Le rock était sans doute. Ah ben, le rock était I Can't Get No Satisfaction. Je pense que c'est l'expression de la colère de une génération en avant nous, hein, des années 60, et qui était une. Je veux dire, ce sont des colères qui sont bien terminées en quelque sorte. Sorte, hein, parce que la musique même des années 60-70, c'est une musique joyeuse. Ce n'est pas qu'une musique de revendication. Des revendications avant 68, hein, et puis après, c'est une musique joyeuse.
Alors donc, que le rap, voilà, est-ce que le rap. Ça peut être plus complexe. On a vu avec vous, Michel Hermann, que c'était une émotion paradoxale, hein, la colère. On se demande aussi si savoir se mettre en colère ne serait pas aujourd'hui une manière, voire une condition pour exister dans notre monde actuel. Je propose de réfléchir à cette question en écoutant d'abord le comédien Rufus face au neurobiologiste Philippe Vernier, qui nous expliquait ici même, il y a quelques années, autour de la question comment mettre en scène ses émotions. Rufus expliquer comment il s'y prenait au théâtre pour jouer la colère, ça devrait vous intéresser.
Oui, je dois détester les femmes, je détestais tout le monde et les femmes en particulier. Et je dois dire que c'est sportif, hein. Ça fait du bien.
Vous faites appel à quoi? À votre colère dont vous avez parlé tout à l'heure, qui parfois peut vous submerger. Comment travaille un acteur?
Il plonge là-dedans. et il espère qu'il va se rattraper. Moi, je sais que ça m'est arrivé un jour, je devais jouer le jaloux, et je me suis dit, je joue à ça, j'en ai pour une semaine, je vais pas en sortir.
Alors, même en dehors de la scène. Oui.
Hein. Donc, en fait, il faut pouvoir en sortir, quoi.
Qu'en dit le neurobiologiste que vous êtes, Philippe Vernier?
Peut-être qu'on peut revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur ce qui est universel dans les émotions. Je crois que c'est important. Ce qui est universel, ce sont les émotions, pas forcément leur moyen de les exprimer, qui elle, est profondément culturelle. C'est sûr que, comme on sait très bien que l'expression, justement, de la colère, chez un Asiatique et chez un Occidental, peuvent être très différentes et amener à des...
Tous les êtres humains ressentent la colère, les émotions sont indispensables à notre survie, mais après, quoi, on apprend à les exprimer de manière différente.
Oui, bien sûr, on apprend à les exprimer de façon différente. Il y a des émotions qui sont valorisées ou du moins tolérées dans certaines cultures et qui ne le sont pas du tout dans d'autres. Et bien sûr que les codes sont essentiels. C'est un langage un peu comme les langages articulés de ce point de vue, comme les langages parlés, puisqu'il y a des codes qu'il faut arriver à comprendre. Et si on ne les comprend pas, l'ambiguïté peut naître.
Il y a différentes expressions de la colère, il y a des codes selon les cultures, les lieux et les époques. Et aujourd'hui, Michel Hermant, c'est un peu, quand on vous lit ce qu'on se dit, il faut savoir se mettre en colère dans notre monde actuel.
Oui, je pense qu'il faut, c'est une nécessité pour exister finalement dans notre monde. Hein. Mais je vais revenir deux minutes là, sur ce qu'on vient d'entendre. Bon, c'est intéressant quand Rufus parle finalement du paradoxe du comédien, hein, bien évidemment.
Comment ressortir de sa colère quand on la joue?
Quand on la joue, est-ce que
on
la ressent. Il parle d'ailleurs du paradoxe à l'envers en quelque sorte. Hein, c'est après quoi. Hein,
c'est pas se mettre en colère qui est difficile, c'est d'en ressortir.
C'est d'en sortir, c'est d'en sortir pour lui. Et moi, ça m'intéresse particulièrement ce qu'en dit Rufus là. Parce que, au fond, la colère est une émotion tout à fait particulière, hein, par rapport à la joie, à la tristesse, etc. C'est une émotion vraiment tout à fait particulière. C'est une émotion presque, c'est une émotion archaïque, c'est sûrement la plus archaïque de toutes. Et l'évolution humaine s'est faite, hein, grâce à l'énergie de la colère. C'est une notion biologique, bien sûr, hein, pour survivre la colère. C'est vraiment. Ensuite.
C'est une énergie vitale qui est du côté de la vie, hein, la colère.
Oui, tout à fait, c'est une énergie vitale. Que serait quelqu'un qui sans cesse se laisserait dominer ou marcher sur les pieds? Enfin, c'est quelqu'un qui va. Dans notre société, plutôt de bien-être, qui va aboutir dans le cabinet d'un psychologue ou d'un psychanalyste, au fond, finalement. Hein. Toutes les colères rentrées, souvent, les médecins disent, les colères rentrées peuvent parfois après être somatisées.
Et générer des maladies.
Alors maintenant, sur l'expression sociale. Alors, vous savez, la colère, c'est comme la sexualité. Hein. D'ailleurs, il doit y avoir un peu de colère dans la sexualité.
Ah oui.
La colère, alors ce qui est intéressant du point de vue
les rapports humains, ils doivent être un peu dans la colère.
Ce sont finalement la pulsion et l'émotion passion. Bon, parce que ça peut devenir aussi une passion, la colère, je ne sais pas si on entend y venir, qui ont été le plus réprimés par la société, le plus contrôlés par la société, au fil du temps. Et, au fond, dans la société occidentale, les surmois moraux, d'ordre religieux, on va dire, ont sauté il y a assez peu de temps pour toute la société, une cinquantaine d'années, c'est les années 60. Avant, ça avait sauté pour dans l'aristocratie et la bourgeoisie du XVIIIe siècle, dans la bonne société, pour l'élite. Bon. Et puis, au fond, la colère se libère aujourd'hui. C'est aussi pour ça que je pense que c'est une émotion contemporaine. Elle est dévastatrice. Alors, on a vu son expression tout à l'heure dans la chanson de Barbara, hein, à travers une sorte de flingue qui pouvait contenir une colère encore plus vive que ce qu'elle exprimait. Et effectivement, selon les sociétés, il va y avoir des codes. Mais si vous voulez, ces codes ne disent pas tout de la colère. Il y a quand même quelque chose de commun, d'universel dans l'expression de la colère, c'est-à-dire une sorte d'immédiateté. Alors, il est évident que, par exemple, si un Japonais vous sourit un peu, même un Oriental vous sourit un peu, ça peut être un signe de colère.
Les signes ne sont pas les mêmes. Émotion, colère chaude, qui engendre le populisme, nous en parlait, colère froide du côté de la vengeance, ces émotions sont les mêmes partout et on n'est pas un paradoxe près, on l'a vu, on l'a entendu, et vous avez dit que c'est une émotion très très particulière, parce que il faut aussi rajouter que si la colère est omniprésente aujourd'hui, elle est aussi impossible face au terrorisme. Vous avez un chapitre là-dessus, l'impossible colère, et on ne peut pas sombrer dans la colère chaude, passe encore, mais pas froide, ni dans la vengeance, ni dans la haine. Vous n'aurez pas ma haine. Vous revenez aussi dans votre chapitre, donc sur l'impossible colère, Michel Herman, sur l'extraordinaire témoignage d'Antoine Léris au lendemain de l'attentat du Bataclan, où il a perdu sa femme. Il lançait cet appel sur Facebook, vous n'aurez pas ma haine, devenu depuis un livre et un documentaire. Rappel des faits avec cet extrait d'un reportage diffusé sur France 2.
Le soir du 13 novembre au Bataclan, Antoine Léris perd sa femme Hélène. Elle est l'amour de sa vie et la maman de leur petit garçon Melville, alors âgé de 17 mois. Quelques jours après l'attentat, il publie un texte sur Internet. Le titre, « Vous n'aurez pas ma haine ». Aujourd'hui, il en a fait un livre. Son combat, ne pas se laisser envahir par la colère.
D'abord parce que j'ai un enfant. Et que je souhaite qu'il grandisse, je souhaite qu'il puisse être heureux, qu'il puisse être malheureux parfois aussi, mais qu'il puisse être enfin un enfant comme les autres. Je voulais aussi qu'il garde une... Parce que la colère et la haine empêchent le cerveau d'essayer de comprendre et d'avancer. Ça brouille la lucidité. Et je voulais qu'on garde tous les deux cette lucidité parce qu'on allait avoir beaucoup d'épreuves à affronter. Énormément d'épreuves, et que pour affronter ces épreuves, on avait besoin de lucidité, on avait besoin d'être nous-mêmes et de pas devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un qui serait guidé par ce sentiment animal de colère.
L'impossible colère, magnifique témoignage d'Antoine Léris, vous n'aurez pas ma haine, il aurait pu dire vous n'aurez pas ma colère. Il y a ça aussi, c'est-à-dire dans cette émotion aussi humaine, aussi constitutive de nous, aussi archaïque aussi, le fait d'y résister, de choisir de pas y aller, c'est aussi être humain.
C'est être humain. Vous savez, il y a un mot, très très beau mot que Albert Camus rapporte, c'est un mot qui est mis dans la bouche de son père, qu'il n'a pas connu, puisque son père est mort en 1914. Son père était militaire, je crois, au Maroc, et il était confronté, donc avant la Première Guerre mondiale, il était confronté à des actes sanglants et barbares. Je ne vais pas décrire ici, mais dont le terrorisme islamique donne également une image. Et un jour, que lui et ses compagnons ont été confrontés, ont vu certains de leurs camarades, la tête tranchée, les organes tranchés, enfin, etc. Tous sont dit que il fallait retrouver les coupables et se venger. Et lui a dit, le père de Camus aurait dit, un homme, ça s'empêche.
Voilà. Un homme, ça s'empêche.
Un homme, ça s'empêche. Et c'est un peu ce que dit Antoine Léris, là. Ça s'empêche de verser dans la haine. Parce qu'il dit bien la haine, il ne dit pas la colère. La haine, c'est la furie, c'est la colère furieuse. Quoi.
Mm-hmm. Voilà. On peut ne pas retirer une colère chaude tout de suite, ça c'est pas. Voilà. Mais en fait, on l'empêche d'aller plus loin.
On l'empêche d'aller plus loin.
Un ça peu demande... comme aux enfants, on apprend aussi à canaliser leur colère. Enfin,
Alors lui, il le dit, si vous voulez. Alors je vais prononcer un mot, j'espère pas qu'il soit mal compris. Face à une situation comme celle-ci, et à d'autres situations d'ailleurs qui suscitent la colère, mais celle-ci est peut-être la plus terrible, perdre la femme qu'on aime dans une situation telle que l'horreur du Bataclan, c'est une des choses les plus terribles, avec perdre un enfant, je pense qu'il puisse arriver. Et... si vous voulez, face à ça, qu'est-ce qu'il peut faire ? S'engager dans des commandos pour aller combattre les islamistes en Afrique ou en... Non. Donc il y a nécessairement, par rapport à, comment dire, à cette douleur insondable, une nécessité de fuite, c'est-à-dire de s'en extraire. Donc un homme, ça s'empêche, c'est la position morale. Et puis il y a aussi une nécessité, si vous me permettez ce néologisme, tripale. Ça vient des tripes, ça vient du cœur.
C'est pas la colère là qui est tripale. Ce qui vient du cœur et des tripes, c'est de dire je vais continuer.
Il faut sortir de là. Sinon, il allait entraîner sa vie et la vie de son fils dans une sorte de guerre à venir. Donc je crois que sa réaction est à la fois une réaction, mais tout à fait humaine, de fuite. Et de morale, si vous voulez, c'est pas pour dévaloriser la morale, les deux vont de pair. Un homme, ça s'empêche, Antoine Héry, c'est de ses hommes, et en même temps, il est évident qu'il y a une... parce que si on avait arrêté les coupables immédiatement, sans doute qu'il aurait pas dit « je vous pardonne ».
Bien sûr, on voit bien aussi tous les paradoxes de notre humanité autour de cette émotion. Votre dernier chapitre s'intitule « La première et l'ultime émotion ». Michel Hermon, la colère, c'est la première ? Et
la colère, c'est peut-être le cri de l'enfant qui naît, qui d'un seul coup se trouve, éprouve une douleur. Hein,
il y a peut-être peur.
On le sait, les médecins le savent. Une douleur parce que d'un seul coup, l'air rentre dans les poumons. Et les poumons n'ont jamais fonctionné. C'est sûrement ça, la première réaction humaine, c'est une espèce de colère de ne plus être protégé dans la vie amniotique. Et puis l'ultime émotion, oui, je prends un seul exemple, l'exemple du goulag, et d'un écrivain, poète, qui à un moment raconte que la vie était tellement, non seulement sans joie, mais pleine de douleur, qu'il allait se laisser aller. Il ne pouvait pas faire autrement que se laisser aller à la pulsion de mort, en quelque sorte. Et c'est la colère qui l'a maintenu en vie, la colère pour résister à celui qui, ou à ses bourreaux.
La colère contre, tenir contre.
La colère contre, il a tenu contre. Et d'ailleurs, un peu plus loin, je ne cite pas tout. Il dit quelque chose de formidable. Il dit, mais à un moment, lorsque je me suis libéré, la première chose, c'était de frapper ceux qui m'ont fait tant de mal. Hein, c'est-à-dire, c'est la colère qui, d'un seul coup, est en action. Quoi. Et puis ensuite, d'essayer de penser que c'était un homme aussi. Et donc la colère, c'est ce qui permet sans doute, dans des situations absurdes, dans des situations barbares, auxquelles on est confronté et qui menacent notre vie, de résister.
De résister, de tenir en vie, de rester humain. Qu'est-ce que vous, personnellement, ça vous a appris, cet essai ? On n'a fait que l'aborder, en fait, parce que c'est extrêmement riche, surtout ce travail sur la colère, donc émotion, complexe, positif, négatif, plutôt pulsion de vie que pulsion de mort, d'ailleurs, j'ai l'impression. Qu'est-ce que vous, ça vous a appris, Michel Hermon ?
Écoutez, moi, ça m'a appris quelque chose, peut-être, que je cherche dans la littérature, parce que je suis aussi romancier, je suis professeur de littérature. Et donc, moi, j'ai beaucoup réfléchi, pensé avec la littérature. Beaucoup plus qu'avec des concepts abstraits, hein, beaucoup plus qu'avec des systèmes philosophiques. La colère m'a appris, au fond, que nous sommes des êtres de passion, d'émotions et de passion avant d'être des êtres raisonnables. Et que être humain, c'est reconnaître ça et ne pas se laisser aller à ses émotions, à ses passions. Hein. Mais toute notre culture nous invite à les dominer. Je ne pense pas qu'il faille les dominer, il faut vivre avec eux.
Hein. Vivre avec nos émotions.
Plutôt, hein. Vivre avec nos émotions, vivre avec nos passions. Elles ne doivent pas repousser la rationalité, bien évidemment. Elles ne doivent pas nous emporter. C'est ça l'essence de la vie. C'est ce que disait Antonio Damasio. Nous sommes vivants parce que nous sommes des êtres d'émotion.
Merci beaucoup, Michel Hermon. Je vous propose un petit clin d'œil pour terminer cette émission, un petit clin d'œil musical à notre époque rock'n'roll avec le groupe Lutin Bleu. J'ai la rage. Et oui, on a peut-être la rage, on a même le droit d'avoir la rage si on ne se laisse pas trop aller dans la rage. Merci infiniment Michel Hermon d'être venu en direct, si c'était nous pacifier, au moins nous faire réfléchir à la colère, cette émotion originelle et immémoriale. Je vous cite et je rappelle le titre de votre passionnante essai dont nous avons, je le rappelle également, un exemplaire et un seul à vous faire gagner. Amis auditeurs, si vous nous le demandez par mail ou sur notre page Facebook en précisant bien votre adresse postale, le livre s'intitule Au bout de la colère aux éditions Plon, sous-titré Réflexion sur une émotion contemporaine. Merci Michel Hermon.
Merci à vous.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui et sans colère en plus. Rendez-vous demain autour de la première table ronde mensuelle de l'année avec nos confrères et consœurs de la presse scientifique. Il y aura bien sûr des magazines à gagner. Hugo Violas à la réalisation, Tatiana Tsikounas en coulisses. À demain, restez curieux, gardez l'esprit ouvert à l'écoute de RFI.